Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Duval, Steve, Cynthia, Donald, la team Afro et leurs invités vous ouvrent les portes du week-end sur Mon Paris FM.
Mon Afro Paris, c'est maintenant, maintenant.
Comment ces deux auteurs et cette créatrice auraient pu se rencontrer, deux passionnés d'écriture et une amoureuse de style? La magie de Mon Afro Paris réussit encore une fois à briser les frontières et créer un pont entre les univers et les singularités. Il a fallu rêver, être rigoureuse et focus sur ses objectifs pour que Liliane réussisse à réaliser son projet LE Création. Cédric a aussi commencé par rêver dans sa blouse blanche à travers ses séries et films de fiction pour enfin réussir à coucher des mots sur du papier. Et vous vous rendrez compte tout à l'heure que le processus était certainement le même ou similaire ou pas pour Céran dans son parcours d'écrivaine, même si le confinement y a joué pour beaucoup dans l'histoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans Mon Afro Paris. Vous l'avez compris, ce n'est peut-être pas la journée mondiale de la littérature, mais ce soir nous recevons des auteurs et une styliste. Ils ont tous quelque chose en commun, c'est des rêveurs. Et nous aimons les rêveurs dans cette émission. D'ailleurs, Steve en est un et il sait vous faire voyager tous les vendredis soirs à travers sa playlist. Bonsoir Steve.
Bonsoir Duval, bonsoir chers auditeurs et bonsoir les invités, bonsoir Cynthia.
Univers folk, pop, reggaeton, afrobeat, un peu ça ce soir.
Oui, un petit peu, mais en préambule j'aimerais, sais-tu que nous sommes écoutés aux Pays-Bas, en Hollande?
Ah oui.
Voilà, alors tu le découvres ce soir. Alors justement, j'aimerais passer le bonjour à un couple génial qui s'appelle Tom et Mélanie et qui nous écoute chaque vendredi de leur pays là-bas, des Pays-Bas.
Salut Tom, salut Mélanie, merci de rester scotché et de nous écouter tous les soirs là-bas. Bah, on est heureux de savoir qu'on est écouté quelque part et partout dans le monde, hein, je sais. Hein. Je ne voulais pas lui faire de compliments ce soir, mais comment réussir à passer à côté d'elle sans marquer un arrêt ou retourner la tête? Dommage pour les auditeurs et les passants sur son chemin. Nous, on peut profiter de son regard chatoyant et la douceur de sa voix quand elle vient faire flirter les mots dans sa découverte. Bonsoir Cynthia.
Bonsoir.
Un petit bonsoir. Pas de musique, mais très artistique la découverte de ce soir quand même.
Oui, en effet.
Bon, les auditeurs, ils vont découvrir tout à l'heure. Céran, Liliane, Cédric et notre invité Mystère sont avec nous pour embellir cette émission. Comment allez-vous, chers amis? C'est Céran d'abord. Comment allez-vous?
Ça va?
Très bien. Bienvenue dans les studios de Mon Paris FM. Et l'invité Mystère, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va? Bien installé?
Oui, très bien.
Bon, on parlera de ce pourquoi l'invité Mystère est là tout à l'heure. Vous allez découvrir, chers auditeurs. Et Cédric, le seul garçon parmi tous ses invités qui est là aussi.
Ça va
Cédric,
merci.
La forme?
Ouais, fatigué.
Content d'être avec toi? Fatigué?
Ouais, fatigué.
C'est vrai, à la fin de la semaine, le vendredi.
Ouais, tu sens que c'est dur, c'est vrai.
Mais on relâche la pression.
Ouais.
On est bien installé. 1h30 d'émission ce soir, vous allez découvrir pas mal de choses et passer un très bon moment avec nous. Nous sommes en place, le réalisateur Léo aussi, et les choses sont dites. Je voudrais maintenant vous faire écouter une jeune chanteuse sud-africaine dont j'aurais voulu donner de bonnes nouvelles, mais hélas, elle n'est plus depuis le mois d'août dernier, seulement à l'âge de 36 ans. Et oui, elle a eu une carrière courte, mais elle nous a donné de l'émotion avec cette chanson. On l'a d'ailleurs souvent comparée à Tracy Chapman. À cause de son grain de voix, c'est avec ce titre Lolly Way que le monde la découvre en 2011. Voici Zara, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à tout à l'heure.
Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Sous les zones, Aziza. Sole zonye mbezi mtawetu. Sole zonye mbezi mtawetu. Sole zonye mbezi mtawetu. Nangwe Aziza.
Paris, c'est votre rendez-vous africain tous les vendredis soirs sur Mon Parquet FM.
Comme annoncé, cette émission est véritablement dans l'art au pluriel. Cynthia nous fait découvrir aujourd'hui une artiste, un artiste peu ordinaire, et c'est maintenant. Vas-y Cynthia, du coup, c'est qui cet artiste ?
Alors, ma découverte du jour est Monsieur Damola Ayegbayo, artiste peintre nigérien né à Ejigbo. En 1988, Damola est le fondateur de Victor Art Enterprise.
Oui.
Sa passion pour l'art lui vient de son grand-père qui était sculpteur, céramiste et peintre, et entreprend alors ses études d'art et se spécialise dans la peinture. Monsieur Ayegbayo est un artiste peintre, mais pas seulement, il transmet des messages positifs dans chacune de ses œuvres. À travers ses œuvres, il nous transmet de la lumière, des couleurs flamboyantes, des visages très expressifs et beaucoup d'espoir. Monsieur Ayegbayo peint les portraits de femmes au visage aux mille couleurs. Il met en avant la beauté de la femme noire africaine sous tous ses aspects. Il dit que son style de peinture est appelé abefé, qui veut dire plaider pour être aimé. Et très attaché à la culture africaine et à son patrimoine, il fait en sorte de représenter différentes identités et les valeurs qui en ressortent. Il prône l'amour entre chaque pays du monde et nous incite à puiser dans nos différences pour en faire ressortir notre force. Alors il peint des femmes comme des reines, en dénonçant la place de la femme dans la société africaine. Il souhaite casser cette image de la femme qui doit absolument rester à la maison et met en lumière leur côté entrepreneur, leur puissance, leur rôle éducatif. Il aborde la fierté, l'estime de soi, le pouvoir de la femme dans les descriptions de ses œuvres. Il aborde également les problèmes récurrents de la vie, comme l'anxiété, les problèmes du quotidien. Et il incite les spectateurs à sourire comme le font les femmes sur les tableaux, sur ces tableaux, et profite de la vie à pleine joie. Il expose au Nigeria, mais pas seulement. Ses œuvres voyagent au Canada, en Australie, à Londres, en Norvège, au Lagos, à Washington et autres. Il fait de nombreuses couvertures de livres et de magazines. C'est un des plus grands collectionneurs au Nigeria, en comptant près de 1000 œuvres. Alors si vous voyagez dans le monde et que vous voyez un magnifique portrait de femme noire, au sourire éclatant, souriez aussi, c'est sûrement une œuvre de Monsieur Hayek Bayo.
C'est joliment dit. 1000 œuvres, mais en plus, c'est le plus jeune collectionneur du Nigeria.
Ouais.
La particularité de sa peinture, c'est qu'il explore divers médiums artistiques, tu l'as dit, hein, notamment les couleurs postales, les couleurs d'huile, l'acrylique. Et comme c'est courant sur le continent, la transmission de ce genre de choses, ça vient de famille. Et lui, cela a été transmis par son arrière-grand-père.
Ah, arrière-grand-père.
Ah bah oui. Et oui, c'est un talentueux peintre, sculpteur et je crois céramiste.
Oui. Mais en tout cas, dans chacune de ces descriptions, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il prône beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je pense que ça vient aussi de cet héritage familial, de son grand-père, de l'amour de son pays.
C'est important. Ce qui est intéressant surtout, c'est que tu m'as parlé des couleurs rayonnantes sous lesquelles il met la femme africaine. C'est une manière pour lui de valoriser.
Exactement.
Et de montrer l'Afrique sur un air beaucoup plus souriant, beaucoup plus éclatant et beaucoup plus gai.
C'est ça. Et elle sourit toujours.
Elle sourit toujours.
J'ai remarqué que toutes ces peintures, il n'y a que des sourires, sous toutes les formes.
Alors, quand on est écrivain, on s'intéresse aussi à l'art, ouais, la peinture, etc. N'est-ce pas, Cédric?
Oui, c'est vrai.
Ah, il dit oui, c'est vrai, mais est-ce que...
C'est pas mon... Ah, excuse-moi. Du coup, c'est pas mon art préféré. Je vais le voir, mais
oui,
ça va pas m'intéresser plus que ça. Je suis plus dans le 7e art, pour le
oui
coup. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de voir, de s'intéresser, de chercher d'autres inspirations, en fait.
Ben, c'est ce que j'allais dire, surtout que vous, les écrivains, il vous faut parfois explorer autre chose pour aller dans la richesse de votre inspiration et trouver des choses à écrire, n'est-ce pas, Serhat?
Tout à fait. Alors, oui, j'écris, mais en fait, je dessine aussi.
Ah ouais, tu t'es complètement retrouvé dedans, là, quand on a parlé de l'artiste peintre et tout. Tu dessines.
Oui.
C'est quoi tes outils?
Alors, en ce moment, c'est le Tufting Gun. Alors, qu'est-ce que c'est?
Ça consiste en quoi?
J'aime bien. En fait, elle parle dans le sujet et elle s'interviewe et se pose la question. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous alors.
Alors c'est un pistolet qu'on utilise pour pouvoir fabriquer des tapis, en fait, donc avec de la laine. On positionne la laine dans le pistolet et puis on peint, entre guillemets.
Merci de nous mettre de l'eau à la bouche. On va essayer de creuser tout à l'heure pour comprendre un peu tout ce qui se cache derrière cet art-là et tout ce que tu peux faire au-delà de l'écriture. Du coup, j'ai envie d'écouter une chanson d'un artiste guinéen qui décide de rendre hommage à son beau-père. Hein. Il rend hommage à son beau-père. Mais son beau-père, c'est pas n'importe qui. C'est un grand artiste africain qui a connu les gloires aussi, même ici en Europe, et qui n'est plus. L'artiste s'appelle Soul Banks. Il a marié la fille de cet artiste-là, dont je vous parlerai tout à l'heure. On écoute cette chanson qui s'appelle Bala Komonfing. J'ai mal prononcé, je sais. S'il commence pas à tirer le regard et me dire de quoi tu parles, j'ai mal prononcé. Écoutons la chanson et après je vous dirai de qui il parle dans cette chanson. À tout à l'heure.
mansa fea yugati na yaroro
yugati bindamuna
lambe mala maluma nginde ha dosalu beni yaroro yugati bindamuna mala kononi fi yugati na yaroro yugati bindamuna mala kononi fi na 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 ha tolo no sobe manga ke bani lele ma koma dina kanena fa Jokana baganyogo ma abenina kunukamfa Na 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 oh Godina mafana muna munde Amori amori Ika kuna yere neni favarama utepeha
sur mon Paris FM.
Donc, comme je te le disais, il rendait hommage à son beau-père. Et c'est qui? C'est Maury Canté.
Maury Canté, ouais, c'était vraiment super beau, hein, ce morceau.
Elle est magnifique. J'étais sûr que t'allais l'aimer avec la cora et tout.
C'est ça.
Incroyable. Voilà. Et ce garçon, c'est une superstar là-bas en Guinée en ce moment. Et on aime bien sa musique. Il tourne beaucoup. J'espère qu'un jour, on va le recevoir dans cette émission.
Ça sera très
Soul Bank, c'est son nom. Faut retenir et il faut aller écouter ses musiques aussi. Du coup, alors maintenant. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, dis que bien. Notre premier invité sera présenté ce soir par Monsieur Steve qui va s'y coller. Allez, c'est parti Steve.
Alors, Liliane Saïd nourrit depuis son plus jeune âge le rêve d'avoir son propre atelier de couture. Et aujourd'hui, elle incarne cet idéal à travers LE Création. LE Création, une marque qu'elle a fondée, spécialisée dans la confection d'accessoires en tout genre. Basée à Abidjan depuis 2021, Liliane a su se démarquer par son goût pour l'innovation et la qualité, apportant un style unique aux accessoires de mode. Depuis l'ouverture de sa boutique, elle a conquis non seulement le public local, mais également une audience internationale. Sa créativité et son talent ont été reconnus à travers des plateformes prestigieuses. Un de ses modèles a été mis en avant sur le site britannique de Vogue. Une reconnaissance importante qui témoigne de l'élégance et l'originalité de son travail. Elle a eu aussi l'opportunité de faire défiler ses créations sur des podiums internationaux lors de défilés à Abidjan. Dakar, Bruxelles, Paris et Londres. Une visibilité qui propulse LE Création parmi les marques montantes de la mode africaine. Passionnée et déterminée, elle continue de développer son art en s'inspirant des tendances mondiales tout en restant fidèle à ses racines culturelles, conférant ainsi à ses créations une dimension à la fois moderne et authentique.
Elle a une jolie carrière. Bonsoir Liliane.
Bonsoir.
Bonsoir Liliane.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que tu as entendu cette présentation de toi ?
Oui, oui, j'ai bien entendu, oui.
Bon.
Est-ce que c'est conforme ? Est-ce que tout va bien, Liliane, dans cette présentation ?
Oui, très bien, merci. Oui, c'est conforme. C'est bien moi. Ouais.
Moi, j'ai envie de te demander si toi, tu devais te présenter, que dirais-tu ?
Bah, je dirais que je suis une personne qui aime la mode depuis son plus jeune âge et que c'est un rêve de pouvoir le concrétiser, c'est un rêve de pouvoir le réaliser et d'en vivre. Voilà.
Question assez basique, je pense que c'est une question qu'on t'a souvent posée.
Oui.
Je pense que la particularité de LE Création, c'est le fait d'allier audacieusement le pine wax et des matériaux comme la jute. Je dirais même surtout la jute, hein, d'où te vient cette inspiration du coup ?
Oui, c'est vrai que le jute est vraiment mon produit phare. À la base, comme je raconte toujours, je travaillais dans une boîte qui faisait des t-shirts publicitaires et des gadgets, ce genre de choses. Et j'avais un client qui était le plus gros fabricant de jute en Côte d'Ivoire. Et une fois, il m'a demandé de lui proposer des idées cadeaux pour ses clients avec le jute. Et c'est comme ça que je lui ai proposé un sac. Après, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire avec cette matière-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai décliné. J'ai fait des sacs, j'ai fait même des vêtements. Là, tout récemment, on a fait un défilé pour la journée du chocolat et du cacao en Côte d'Ivoire, avec des tenues en jute, voilà. Donc, c'est un peu ça.
Ok, Liliane, j'ai une première question à te poser. Dis-moi, quels ont été les défis que tu as rencontrés quand tu as lancé ta boutique à Abidjan en 2021 ?
Quand j'ai lancé la boutique, mais j'ai pas entendu.
Ouais, quels ont été les quels défis as-tu rencontré quand tu as lancé ta boutique à Abidjan en 2021 ?
Pour la boutique, c'était vraiment parce que à la base, j'avais un showroom, donc je travaillais chez moi. Donc c'était vraiment convivial, c'était à la bonne franquette, les gens venaient chez moi. C'est sûr que avoir une boutique, c'était vraiment un énorme défi parce qu'il fallait, ça tout changeait, ça devenait vraiment du sérieux. J'avais pied un pion sur rue, il fallait vraiment faire ça sérieusement parce qu'à la base c'était vraiment pour m'amuser que j'avais commencé ce métier-là. Et là, il fallait vraiment que tout ce qui était administration, parce que moi à la base je suis que créatrice et j'ai une formation de couturière, donc j'avais pas vraiment le management, j'avais pas j'avais pas les compétences pour gérer vraiment une boutique. Et donc c'était ça vraiment la lacune, c'était vraiment ça le gros défi. Il fallait que je me forme tout de suite. Je me suis entourée de personnes compétentes, donc du coup de plus surmonter cet obstacle-là. Et donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on a la boutique et je suis très contente.
Très bien, très bien. En ce qui concerne, le modèle publié sur le site British Vogue, quelle retombée cela a-t-il eu pour ta marque ?
C'est sûr que c'était une reconnaissance pour mes pairs, hein, parce que il a fallu que j'aille faire ce défilé-là, cette exposition à Londres, pour que les Ivoiriens commencent à consommer du local. Parce que c'est vrai que je travaillais le jute, pour eux, c'était pas du tout une matière qu'ils pouvaient porter. Pour eux, ça représentait des sacs de cacao, donc c'était pas vraiment. Pour eux, c'était plutôt acheter du Chanel ou du. Ouais, les articles de marque, voilà, c'était vraiment ça. Mais le fait que j'ai eu cette reconnaissance internationale a fait que mes compatriotes ont commencé à acheter mes articles. Et c'est comme ça que j'ai réussi à entre guillemets, à percer en Côte d'Ivoire, on va dire. Voilà un peu, ouais.
Et aujourd'hui, tu as. Et aujourd'hui, tu as deux boutiques maintenant en Côte d'Ivoire, au Sofitel. C'est bien ça?
Ah non, en fait, c'était un pop-up. C'était une boutique éphémère. Mais c'était une boutique éphémère. Sinon, j'ai une boutique et j'ai des distributeurs. J'ai plusieurs distributeurs qui revendent mes articles.
Et tu vends uniquement des articles de mode ou est-ce que tu fais des articles pour la maison ou autre?
À la base, je faisais que des accessoires. Après, je commençais à faire en 2019, quand il y a eu la Covid, bon, les gens n'achetaient plus des sacs, il fallait se réinventer. Donc, j'ai fait de la déco de maison parce que les gens étaient chez eux, ils ne bougeaient pas. Donc, il fallait vraiment trouver quelque chose pour rester ouvert. Donc, du coup, je me suis lancée dans tout ce qui était déco de maison parce que les gens refaisaient leur décoration et aménager, ils s'occupaient, quoi. Donc, du coup, j'ai lancé ça. Ensuite, j'ai fait de l'homme. Et là, je fais des vêtements femmes et là, tout dernièrement, enfants. Donc, j'essaie vraiment de diversifier pour faire venir les gens dans la boutique, quoi, pour avoir plusieurs cibles.
On t'entend, on sent qu'il y a du rêve dedans, il y a un projet d'avenir dedans, mais il y a surtout une forme de valorisation du label Côte d'Ivoire dans la démarche, puisque justement le jute dont tu parles est utilisé pour les sacs du cacao, et la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Du coup, est-ce que c'était ça l'initiation, c'est ce qui t'a poussé à partir vers ces matériaux-là?
Oui, bien sûr, effectivement, parce qu'on trouve, à la base, je faisais vraiment des sacs en cuir, et je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout aidé ici. On n'a pas de tannerie, on est obligé de faire venir d'importer d'Italie, et bon, moi, il fallait de grosses quantités pour pouvoir importer, et je n'étais pas du tout à ce niveau-là. Et ceux qui importaient, quand tu faisais une collection, tu ne pouvais pas la refaire parce qu'il n'y avait plus les mêmes coloris, il n'y avait plus le même modèle. Et quand je suis partie du jute, je me suis rendu compte que ça, il y en avait en quantité comme je voulais. Je pouvais faire des collections et des collections, c'était interminable. Donc du coup, c'est vrai que le jute a été vraiment
plébiscité.
Voilà.
Comment ça se construit une collection d'accessoires? On commence certainement par le design. Et c'est quoi les étapes pour en arriver chez Elle Création? C'est quoi les étapes?
Je commence, c'est vrai que au tout début, quand j'ai commencé, j'ai commencé par faire un modèle qui existait. C'était parce que personne ne connaissait. Donc, du coup, il fallait se démarquer, il fallait montrer mon savoir-faire. Donc, j'ai commencé par m'inspirer par des modèles qui existaient. Et c'est après que j'ai commencé à faire moi-même mes créations, à imaginer des modèles.
En même temps, c'était un peu risqué. Moi qui connais un peu l'environnement de la mode en Côte d'Ivoire, le marché des accessoires, c'était vraiment un peu risqué pour vous, mais vous l'avez fait quand même.
Non, c'est pas du tout. En fait, à l'époque, j'étais l'une des premières à faire les accessoires made in Côte d'Ivoire.
Ok.
Parce que c'est vrai que la boutique, je l'ai eue en 2021, mais j'existe depuis 2012. C'est-à-dire, je travaillais chez moi, mais bon, c'était vraiment comme je disais, j'avais.
En pleine crise politique en Côte d'Ivoire, en 2012.
Voilà, c'est ça. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'accessoiristes en Côte d'Ivoire. J'étais l'une des premières à faire des sacs en wax, en jute et tout. Donc, vraiment, on va dire que j'étais la pionnière même, quasiment. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dû me réinventer parce que c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de motiver les gens à faire pareil. Mais bon, pas me bouffer mon marché, donc, du coup. C'est sûr que c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vêtements, à faire de la déco de maison, à faire de l'enfant, justement, pour pouvoir rester sur le marché.
Alors Liliane, en tant que pionnière, justement, quel conseil tu donnerais aux jeunes créateurs qui rêvent de lancer leur propre marque?
Ben, la première chose que je leur dirais, que c'est ce conseil que moi, je n'ai pas eu, c'est de ne pas se lancer dans la création parce que ça fonctionne pour Liliane. Il faut le faire parce qu'on est doué dans ce qu'on fait et on aime ce qu'on fait parce que vraiment c'est la passion qui fait.
Passion.
Vu toutes les crises qu'on a eues ici, si je n'étais pas passionnée, si je n'étais pas motivée, j'aurais fermé boutique il y a longtemps parce que c'est chaud. Hein, Donc, je veux dire, il faut être passionné, il faut savoir s'entourer de personnes compétentes parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est sûr qu'on se dit, ah, mais moi, non, on ne peut pas tout faire. On est obligé de s'entourer de personnes compétentes, des personnes dans le domaine qui s'y connaissent. Bah, par exemple, moi, comme je dis, je fais que la créa, je fais la coupe et j'ai des tailleurs qui font le montage, mais je ne gère pas tout ce qui est administration parce que je ne sais pas le faire. Donc, il faut savoir s'entourer d'un bon comptable, et un aide financier, ce genre de choses. Là, il faut pouvoir... trouver des personnes qui réfléchissent, qui ont la même vision que vous, et là, comme ça, on va très loin.
En plus de la compétence, il faut qu'il y ait de la vision. Alors, du coup, Liliane, on est pratiquement à la fin de cet entretien avec toi. Dis-nous, c'est quoi les projets immédiats? Est-ce qu'il y a une collection en cours qui va tomber dans pas longtemps? Est-ce que tu viens à Paris? Est-ce que tu as des défilés? Dis-nous tout. Ouais, dis-nous tout, là.
Bah, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait un marché de Noël qui se fait dans pas longtemps à Paris. J'ai postulé pour pouvoir participer.
En fait, Liliane, tu es en train de nous dire, l'équipe de Mon Afro Paris, vous en faites pas, je serai dans votre émission avant l'année 2025. C'est ce que tu essaies de nous dire. Dis-nous ça, il n'y a pas de souci.
Je viens à Paris du 12 au 16 décembre.
Cynthia, c'est bon.
Cynthia, elle a noté.
J'ai déjà envie et tout. Je viens, mais justement, j'étais en train de voir est-ce que je fais une expo, est-ce que je fais une vente privée, est-ce que j'y réfléchis parce que je ne venais pas pour ça. C'est pour un événement familial. Et bon, comme toujours, je ne peux pas payer un billet juste pour aller dire bonjour, revenir. Il faut que ça me rapporte de l'argent.
Ça y est, tu vois, les invités dans le studio veulent passer commande pour que tu viennes livrer en même temps. Donc, ouais.
Mais voilà, c'est l'occasion. Il n'y a pas de souci. Passer commande sur les réseaux sociaux. Et puis
j'allais te poser la question. Est-ce que ici, tes produits sont accessibles pour ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire? Comment on peut trouver tes produits ici en Europe?
Ben, j'ai pas de distributeur en Europe, mais via les réseaux sociaux, les gens me commandent et je livre en 4 jours maximum, on peut faire des livraisons.
Vas-y, donne ton Instagram, donne tous tes réseaux sociaux là, c'est l'opportunité, vas-y, lâche-toi.
Oui, c'est ça.
Dis-nous, c'est quoi tes réseaux sociaux?
Ben, c'est toujours LE Création pour Instagram, sur Facebook c'est la même chose et TikTok aussi.
Parfait. Très bien, nous on te remercie d'avoir accepté de nous accorder cet entretien dans cette émission Mon Afro Paris. On est très heureux pour ce qui t'arrive et l'évolution de ton projet. On espère te voir bien sûr quand tu seras à Paris pour un entretien en présentiel et pouvoir donner tous les détails qu'on n'a pas pu
merci
avoir avec toi
vous.
Ce soir. Voilà.
Merci à vous pour l'invitation, ouais. Merci pour la visibilité.
Merci Liliane.
Et puis bon
à
courage
bientôt,
Liliane. Hey.
À bientôt.
N'est-ce pas que c'est beau tout
à
ça
très
les
bientôt.
Copains. C'est très beau hein, les collègues.
Magnifique.
C'est une belle histoire. C'est une très très belle histoire. Est-ce que vous, on a beaucoup de dames dans ce studio. Siran, quand tu penses accessoires, tu penses à quoi toi en général?
Bijoux, boucles d'oreilles.
Est-ce que tu as des idées précises de ce que tu recherches en termes d'accessoires ou bien tu fais genre, demain soir je vais dans un dîner gala, les couleurs c'est jaune. Allez, je vais me chercher un truc qui pourrait marier avec le jaune. Comment tu fais toi?
Ça dépend des saisons, j'ai envie de dire. En été, on est peut-être plus... enclin à de la fantaisie, je sais pas, alors qu'en hiver, bon, je sais pas, c'est le pratique créole en or et voilà, je sais, enfin voilà.
J'ai envie du coup de vous poser la même question que je posais à Liliane tout à l'heure, alors est-ce qu'une œuvre littéraire reprend-elle à un processus de création artistique, comme dans la mode ou comme dans la création d'un projet Une œuvre littéraire, c'est quoi le processus de création de cette œuvre-là? Dis-moi toi, Cédric.
Après, je pense qu'il est, il est propre à chacun. Pour le coup, moi, c'est vraiment, c'est beaucoup d'instinct, et après c'est de champ de vision. C'est-à-dire, au début, j'ai cette idée, je mets en place cette idée, peut-être sur papier ou.
Tu pars sur une idée qui
ouais,
te
je
vient.
Pars sur une idée.
Et t'essaies de construire toute une histoire autour de cette idée.
Exactement.
Est-ce que toi, Serane, tu te projettes déjà avant de commencer à réfléchir à un truc derrière?
Oui, quand même. Après, mon écriture, pour le moment, est assez ciblée sur la culture de la Guadeloupe.
Bien sûr.
Donc, c'est vrai qu'il y a un bon vivier d'idées.
Il y a de la matière.
Il y a de la matière, voilà. Donc, je commence par un peu fouiller, voilà, faire quelques petites recherches. Et à partir de là... voilà, j'essaie de développer une idée, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort du commun, voilà.
Parfait. Et Cédric, je t'avais coupé, je crois que tu n'avais pas terminé.
Non, en gros, dans le processus, voilà, j'ai mon idée, je travaille autour de cette idée et ensuite je la développe tout en mettant du contenu en fonction des thématiques que je vais aborder dans cette idée.
Et tes, idées, justement, elles te viennent selon quoi ? Des émotions, des thématiques auxquelles tu as pensé, l'actualité,
c'est quoi ? Vraiment, ouais, c'est ça, c'est tout. Enfin, ça peut arriver en fonction de mes émotions, mais aussi en fonction de ce qui s'est passé dans ma famille, peut-être, ou dans mes proches, ce qui se passe dans les faits de société, et peut-être aussi des films ou des arts que j'ai vus. Tout est en fonction, en fait, de la situation. En vrai, ton contenu, en tout cas pour ma part, je le travaille en fonction de la situation. C'est-à-dire si je vois par exemple là en ce moment il y a des catastrophes naturelles en Espagne, si je travaille sur un roman qui aborde des traumatismes en Espagne, je vais peut-être m'adapter à ça. En
fait, là tu viens de susciter une émotion en moi. Et voilà, j'ai envie de faire une pause musicale pour écouter un titre sorti en 2021. Ouais. La chanson a été classée en Europe, en Australie, en Amérique latine et en Nouvelle-Zélande, et atteignant numéro 1 en Inde, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suisse, etc. Le clip a dépassé les 288 millions de vues sur YouTube, rien que ça.
C'est pas mal.
Faisant de son auteur une méga star de l'afrobeat, c'est le titre Love Nwantiti. J'ai réussi à prononcer
Nwantiti,
du chanteur nigérien Sike. Ouais.
Démarrez votre week-end avec la Team Afro dans Mon Afro Paris.
Yeah, ah baby, my Valentine. Can I do the making with the marriage of this? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Never did it back in this field. Open up, make us feel love. Give me love, one thing. Give me make a bad man sing. Without you, I could feel lose my mind. Without you, I could feel fall and die. Without you, I could give up my life. Without you, I'm a need it back and it's real. Open up, make us feel. Give me love, one thing, thing. Let me make a bad man sing.
Mon Afro Paris, votre émission afro sur Mon Paris FM. Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Il brûle d'envie de vous emmener avec lui pour un autre voyage musical, surtout que c'est le cas de le dire avec l'artiste dont il a décidé de vous parler ce soir. Voici le coup de cœur de Steve maintenant.
Steve vous emmène dans son univers musical. Laissez-vous entraîner dans sa playlist. Le coup de cœur de Steve.
Aujourd'hui, on plonge dans un univers tout en douceur et en lumière. Un monde tissé de voix, de voyages et d'émotions. Ayo, chanteuse à la voix de miel et aux racines multiples. Née en Allemagne, mais puisant son âme quelque part entre le Nigeria et la culture tzigane. On sent la force des racines de l'Afrique de son père, ses racines profondes et tissées de légendes, de rythmes et de poésie. Puis, il y a le souffle, nomade de sa mère, celui des Manouches, peuple de voyage, peuple sans terre et pourtant si vaste. Ayo nous rappelle la puissance d'un monde métissé, où chaque culture se fait miroir, où chaque note devient un pont entre les rives. Sa voix, tantôt triste, tantôt éclatante, est comme une promesse. Nous sommes faits pour nous comprendre. Nous sommes faits pour nous aimer et pour chanter ensemble, peu importe d'où nous venons. Alors, si vous avez envie de voyager, de retrouver cette chaleur, écoutez Ayo. Laissez-vous bercer par sa voix et ses rythmes de guitare qui nous chantent la beauté de ce monde complexe et magnifique. Car Ayo ne chante pas seulement pour elle, mais elle chante pour nous tous. Tout de suite, Monsieur Léo, le régisseur, va nous envoyer un morceau de son dernier album qui s'appelle Mami Wata, et le morceau en question s'intitule Money Love. Go, Mr. Léo.
C'est du Ayo quoi.
C'est beau hein.
Ah c'est beau.
C'est du Ayo comme tu as dit.
Son album il se baptise Mami Wata, son dernier.
Mmh, c'est ça.
Elle habite où? Dites-moi.
Alors elle est née en Allemagne.
En Tahiti.
Mais... Ah, mais elle,
elle vit en Tahiti.
Ah, vit
l'album
en Tahiti,
s'appelle Mami Wata.
D'accord.
Mami Wata c'est quoi? C'est ça parle d'eau, une déesse des eaux en Afrique. Et j'ai lu une interview dernièrement où elle disait qu'elle aime beaucoup l'eau. Elle surfe plus en ce moment qu'elle ne chante. Elle passe toute sa vie dans l'eau. Donc vas-y comprendre qu'elle a, elle est connectée à l'eau en ce moment et c'est pour ça qu'elle a, elle a été inspirée pour sortir un album baptisé Mami Wata. Elle a une vie nickel. Voilà. C'est bien, on se souvient quand même qu'elle avait été sélectionnée, elle a été quatrième dans le Billboard, je ne sais plus combien, mais elle avait eu un rang dans le Billboard, le grand classement de tous les albums aux États-Unis. C'est pas n'importe qui a eu.
Ouais, je crois que c'est pour son premier album qui est sorti en 2006, il me semble, Joyful, avec le morceau Don't Know My Knees.
Oui.
Sur lequel j'ai fait ma chronique en fond. C'est ce morceau-là qui a vraiment, vraiment, qui l'a propulsé Après, elle a eu un peu moins de succès sur ses autres albums.
Mais je crois que Ayo, elle ne sort pas des albums. Je pense qu'elle n'est pas en recherche de succès. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'elle est à la recherche de succès quand elle sort un album.
En fait, Ayo, elle est un peu comme les artistes qui veulent satisfaire leur communauté. En fait, elle s'est fait une communauté, elle fait des chansons pour eux. Elle ne cherche pas en fait spécialement à se faire connaître mondialement, elle se fait kiffer.
Elle se fait et kiffer, c'est kiffer le bon mot.
Ou juste des artistes voilà, bon qui font de la musique pour la musique, comme à l'époque le courant des Parnassiens, ceux qui font de la poésie pour le beau, etc.
Elle n'est pas dans le commerce.
Voilà.
Exactement.
Exactement.
Elle n'est pas dans le commerce.
Et c'est plaisir.
Et il y en a une artiste qui n'est pas dans le commerce comme elle, et c'est la queen pour moi, c'est Shadé. Et oui. Elle est un peu sur ce mode-là.
J'ai envie de parler de, comme les jeunes, c'est la Mera, quoi.
La kiff, voilà.
Eh, j'ai l'impression que Serane, elle attendait juste qu'on dise ça.
Shadé.
Ah, Shadé, ouais. Mais on fera bientôt. Enfin, je ferai une petite.
Steve, sur Alain, t'es prévenu, hein.
Surtout que Shadé, elle a sorti un morceau. Elle est sur une compilation car son fils a changé de sexe. Voilà, exactement. Et elle a sorti un morceau. Par rapport à son fils, et je pense qu'il va falloir aussi lui rendre un bel hommage bientôt.
Là, tu disais qu'elle sort pas beaucoup d'albums ou pas beaucoup de succès, mais en fait, tu sais qu'elle a pas beaucoup de temps pour sortir des albums. Son dernier album, Mami Wata, elle a déjà 50 dates de prévues pour sa tournée. Là, en ce moment, il est en tournée. Hein. Depuis ce mois d'octobre, elle est en tournée pour 50 dates. Donc, c'est pour dire qu'elle a pas le temps d'aller en studio. Elle est chante sur scène.
Et ce qui est beau, c'est qu'elle elle fait pas la Core Arena. Hein. Elle passe dans les petites salles.
Dans les petites salles, ouais.
Et donc, c'est un vrai kiff quoi, d'aller la voir en concert.
Bon, je vais faire lancer une pique à Cédric. Est-ce que Cédric, ta génération, elle connaît Shadé?
Shadé?
Ah, mais si, là, il était sur Shadé. Mais...
tu connais Shadé?
Ouais, je connais Shadé.
Tu connais Ayo?
Pas Ayo, pour le coup.
Paradoxal, hein?
Tu vois?
J'aurais dit
après,
le contraire.
Je pense que c'est aussi en fonction de... Pour le coup, ma mère, elle écoute Shadé, donc j'ai pu écouter Shadé. Alors que ma mère... Bah,
la transmission de parents à enfants...
C'est à partir de là. Sinon, en fait, c'est ta génération avant qui t'éduque en termes de
exactement.
Musique, je trouve. Et c'est pour ça.
Ça y est, tu viens d'avoir un point en commun avec Serane, écrivain. Vous écoutez Shadé. Je pense qu'on va lire des mots dans vos textes, dans vos livres qui sont un peu similaires. Vous avez peut-être les mêmes inspirations, qui sait. Et l'invité mystère, qu'est-ce que t'écoutes comme musique, toi?
Alors moi, je suis plus gospel, musique ivoirienne, zouglou.
Ça y est. Ça y est. Justement, je fais bien de parler d'elle parce que mon top aujourd'hui, c'est un événement qui a sa deuxième édition et qui montre une Afrique qui s'assume et qui en veut. Une fois n'est pas coutume, pour la première fois, j'invite une personne pour parler de mon coup de cœur. Un invité mystère du coup. Une femme qui a aussi un rêve. C'est une Afrique sauvée par l'entrepreneuriat et l'immobilier. Enfin, je crois. Elle est bardée de casquettes. Oui. Entrepreneur. CEO de Esther Boa Consulting, directrice associée d'Elima Group, cadre en banque d'investissement, formatrice et coach en investissement. Rien que ça. C'est tout ce qu'elle a bien voulu nous lâcher sur elle. Mais je suis sûr qu'elle touche à beaucoup d'autres choses. Madame Esther Boa, une femme qui semble beaucoup chômée dans sa vie, qui s'ennuie beaucoup... C'est l'initiatrice de ce dîner gala. Enfin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on regarde tout ce que tu fais. On voit en tout cas que moi, je vois en tout cas de la volonté d'aider et venir en aide aux autres. Est-ce que dire ça, c'est être dans l'hérésie?
Non, pas du tout. C'est tout à fait ce que je fais, aider les autres principalement.
Pourquoi?
Alors parce qu'aujourd'hui, j'ai une académie de formation en investissement immobilier où j'ai accompagné à ce jour plus de 500 membres de la diaspora africaine principalement. Après, il y a d'autres personnes également à investir dans l'immobilier sans passer par les banques.
C'est une très, très... c'est très grand comme projet et comme idée. Comment on se lève et on se dit, écoute, on va essayer de passer par d'autres moyens d'investir dans l'immobilier sans les banques? Pour moi, c'est quelque chose d'impossible.
Justement. Alors, comment m'est venue cette idée? J'avais commencé à investir dans l'immobilier parce qu'on sait tous, hein, l'immobilier, c'est l'une des valeurs les plus sûres. Et puis, après 2-3 achats, la banque m'a bloqué parce que j'avais atteint ma capacité d'emprunt.
Ah, il y a eu la frustration.
Et voilà, une grosse frustration. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter là parce que je sais ce que ça rapporte. Donc, j'ai commencé à chercher d'autres alternatives. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait investir dans l'immobilier et gagner de l'argent avec l'immobilier sans passer par la banque. D'où ce livre que j'ai écrit l'année dernière qui parle de toute cette stratégie. Et aujourd'hui, à l'académie, j'enseigne cette stratégie de façon pratique.
Je pense que le philosophe qui avait dit que la frustration est un moteur de, de sursaut, il ne s'est pas trompé, c'est exactement ça dans ton cas. On pourrait parler de toi, une émission ne suffirait pas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup, de, beaucoup à dire. Alors, permets qu'on mette les pieds dans le plat. De quoi s'agit-il, le dîner gala de l'excellence?
Alors, le dîner gala de l'excellence, c'est un événement où j'ai envie de dire l'événement de toute la diaspora africaine. Je prends parti, hein, donc je suis vraiment désolée, mais je m'adresse directement à la diaspora africaine qui va venir célébrer l'excellence, mettre à l'honneur ce qu'on fait ici à l'étranger, principalement dans l'immobilier. Ces personnes qui sont à l'académie aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a des retraités, il y a des mamies, des papis, des... il y a tout le monde. Et ces personnes-là reviennent un peu sur les bancs de l'école parce qu'ils vont se remettre dans les études, dans l'investissement, aller négocier des appartements avec des propriétaires, mettre leurs biens en ligne, et c'est tout un parcours. Et cet événement-là est fait pour les célébrer, pour aussi réseauter, networker. Donc on aura une panoplie d'invités, d'entrepreneurs inspirants qui viendront de tous les pays pour justement nous entretenir sur certaines thématiques comme le retour en Afrique, l'investissement en Afrique, l'investissement ici, le mindset pour réussir dans les affaires. Donc c'est un événement auquel il faut absolument participer.
Il y a cet instrument qui est aussi prévu dans l'événement, qui est très social à mon avis, hein, dont il sera question forcément dans cette soirée, l'Académie de la sous-location. C'est quoi ? C'est une école ?
C'est un organisme de formation où justement on apprend à faire de la sous-location professionnelle. Donc quand je parle d'investissement immobilier sans les banques, c'est tout simplement au lieu d'acheter pour mettre en location, nous on loue pour remettre en location. Donc on sous-loue, mais de façon professionnelle.
Waouh, il y a beaucoup de termes techniques dans tout ce que tu dis, mais tu ne nous dis pas les choses. Alors, comment on fait pour investir dans l'immobilier sans passer par les banques?
Donc, toi, tu es propriétaire d'un appartement.
Oui.
Moi, je viens te voir, je deviens ton locataire. Donc, je loue ton appartement à 800 euros par mois, par exemple. Et moi, je vais le relouer en détail, donc à la nuitée sur booking.com, par exemple.
Oui.
Donc, je fais ma nuitée à 100 euros. À la fin du mois, j'ai loué 25 nuits, j'ai 2500 euros. Je te donne tes 800 euros. Je paye mes charges, électricité, etc. Et le reste dans ma poche, t'as vu. C'est plus simple.
À l'époque, avant de faire ça, est-ce que tu n'avais pas un commerce au marché? Parce qu'il y a un grand esprit de commerçant derrière. Il y a
alors,
vraiment...
Moi, j'ai tout vendu. J'ai vendu des toffees aux classes, des gâteaux, des bonbons. Donc, ouais, je pense que c'est... Je tiens ça de mon père, je pense, qui était un grand entrepreneur.
En fait, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te parle depuis toujours.
J'adore.
T'as un livre que tu as écrit sur l'immobilier dans les banques. De quoi il parle?
Alors, l'immobilier sans les banques. Attention, sans les banques, tu vois.
Le lapsus, il en dit long. Oui, toutes mes excuses.
Justement, ça parle de sous-location professionnelle. J'explique dedans.
Tous les détails sont dedans.
Tous les détails, absolument tout.
Comment on fait pour faire tout ce que tu fais? Tout ce que tu as là, t'es bardé de plein de casquettes et d'avoir ton boulot. Et pouvoir encore pouvoir mettre en place un événement comme celui-là, le dîner gala de l'excellence.
Alors quel déjà, j'ai démissionné de la banque. Je ne travaille plus aux banques. Et puis, je fais comme je peux. Hein. J'ai 3 enfants, j'ai un mari à gérer, la maison, l'académie, 500 élèves. Je dois me créer une vie sociale. Donc, j'essaie de... Je fais tout en même temps. Et j'adore faire plein de choses en même temps.
Madame, donc, je suis fan de vous.
Oh, merci.
Comment elle le dit avec... qu'est-ce que j'allais dire? Comment fonctionne l'académie, justement, de la sous-location?
Alors, l'académie, on a des cours en ligne. À côté de ça, on a un groupe Telegram. Là, c'est une vraie famille d'investisseurs. Parce que investir, c'est pas facile. C'est pas tout est rose. Parfois, on pleure, on se relève, on est découragé. Ça marche pas. Qu'est-ce que je fous ici? Mais justement, vu qu'on est en groupe et il y a cette chaleur, cette force-là, ça te permet d'avancer avec les autres. On se tire et on avance ensemble. On a aussi des coachings de groupe chaque semaine, des coachings individuels. Et avec cet accompagnement-là, beaucoup de personnes arrivent à le faire.
Vous êtes coach, vous faites du coaching de beaucoup de personnes aussi du coup. C'est des coachings individuels ou vous faites des temps de formation avec ces gens?
On fait tout ça, temps de formation, coaching de groupe, coaching individuel. Bon, je me retrouve à faire du coaching en développement personnel aussi parce que parfois on m'appelle et c'est, je suis découragée, je vais abandonner. Je dis s'il te plaît, ne lâche pas. Donc je fais un peu de tout je pense.
Qu'est-ce qu'on aura à cet événement, à ce dîner gala?
Alors, on aura des entrepreneurs à succès comme Stanislas Zézé, comme Claudicia, qui sera de la partie, comme Yann Amon, qui vient d'Abidjan avec des offres de terrain.
Oui.
On aura également Tiana Mayambe pour tout ce qui est développement personnel, confiance en soi. On aura Kérosène qui vient spécialement d'Abidjan, voilà, pour cet événement. On aura aussi l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Son Excellence Monsieur Maurice Bandamant. On aura aussi l'ambassadeur de Guinée en France, Son Excellence Monsieur Sankun Sila, et plusieurs autres invités qui nous feront l'honneur de célébrer ces personnes avec nous.
En gros, il n'y aura pas n'importe qui sera là. Il y aura de quoi vraiment parler des enjeux de l'investissement dans l'immobilier. Exactement. En Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, et même dans tous les pays africains, l'Afrique francophone singulièrement du coup. Et, comment on fait pour y participer?
Alors, il faut tout simplement appeler le numéro suivant, le 06 25 60 15 94. Je répète, 06 25 60 15 94, ou nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Esther Bois Consulting.
Esther Bois Consulting, il faut les contacter du coup sur les réseaux sociaux, avoir toutes les informations. Vas-y Steve.
Alors Esther, c'est la deuxième édition, n'est-ce pas?
C'est ça.
Alors justement, comment tu évalues l'impact de la première édition sur les entrepreneurs et experts qui ont participé?
Alors déjà, il y a eu plein de personnes qui ont intégré l'académie à la suite de la première édition, qui aujourd'hui ont du succès dans cette stratégie. En termes d'événements dans la diaspora, ça a inspiré beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont commencé à organiser des événements de ce type-là. Et puis, en termes financiers, ceux qui se sont lancés, ils ont eu un peu plus d'argent. Et je pense que côté mindset, ça a montré aux gens qu'on peut faire de belles choses. On peut investir. Et même si c'est pas dans l'immobilier, c'est dans d'autres choses. Donc, je pense que ça a un très fort impact dans la diaspora aujourd'hui.
Le message, il est beau, il est très intéressant, on en reparle tout à l'heure. Tu es toujours avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Yes.
C'est ce que tu nous as dit, alors tu ne bouges pas, tu es toujours là. Parce que c'est maintenant le tour de Cynthia de nous présenter l'autre invitée. Une autre invitée qui est sur ce plateau. Vas-y Cynthia. Vas-y.
Alors, Sérène Confonnet est une jeune autrice guadeloupéenne. Elle grandit dans la commune de Saint-François, puis part faire ses études à Paris où elle est diplômée en 2018. Elle poursuit un parcours studieux et achève ses études en 2022. Elle débute alors sa vie professionnelle en Belgique, mais son cœur reste sur son île aux belles eaux. En effet, c'est durant le confinement que Sérène commence l'écriture et les illustrations d'un ouvrage qui va nous faire voyager en Guadeloupe, Le secret du Noël Cacado. Sérène nous transporte au cœur d'une tradition guadeloupéenne, plus précisément de vieux habitants, le Noël Cacado. C'est avec une plume délicate qu'elle nous offre ce premier roman dans lequel nous partons à l'aventure tout en découvrant les détails de sa culture dont elle est éprise, mais pas seulement. Elle nous emmène au cœur de l'héritage amérindien, plus communément appelé Kalinago, un héritage laissé par les premiers habitants de la Guadeloupe et des îles voisines. C'est à travers ce récit d'enquête qu'elle met en avant la solidarité, les liens intergénérationnels, le folklore antillais, mais bien sûr notre Noël antillais qu'on aime tant. Bonsoir Sérène.
Bonsoir.
Est-ce que j'ai tout dit?
Oui.
Tu veux ajouter quelque chose?
Rien à ajouter.
Alors, dis-nous, qui est Kalina?
Kalina, c'est une jeune fille. Je lui donne généralement pas vraiment d'âge, on va dire entre 10-12 ans. Se retrouve confrontée à un problème dans sa commune. Alors, est-ce qu'elle est vraiment de la commune de vieux habitants? En tout cas, elle va voir sa grand-mère qui habite là-bas. Et durant la préparation de cette fête de Noël, qu'ils ont l'habitude de fêter tous ensemble, cette année-là, hop, il y a un problème. L'ingrédient
Il ne faut pas tout dire. On veut le lire.
Mais en tout cas, il y a un ingrédient qui permet de fêter en fanfare. Cet ingrédient, il disparaît. Et donc, c'est l'intrigue du livre.
Du livre.
Comment on se retrouve de la science à l'écriture, Sérène?
Je pense que c'est plus le côté recherche, en fait. Je pense quelqu'un de très curieux. Peut-être trop. Et en fait, j'ai toujours envie d'en savoir un peu plus. Cette envie de redécouvrir en fait aussi le patrimoine guadeloupéen. Parce que le Noël Cacado, c'est vrai que c'est quand même une fête assez, je vais pas dire isolée, mais ça se passe quand même dans une partie de l'île où tout le monde ne va pas forcément. En tout cas, moi, pour le coup, je n'avais jamais fée de Noël Cacado, en vérité.
Mais t'es sûr?
Nous expliquer ce que c'est le Noël Cacado.
Alors en fait, c'est durant toute la période de l'Avent, donc les 24 jours avant Noël, tous les habitants donc, de cette ville, donc de vieux habitants, se réunissent chaque semaine en fait dans une section pour fêter en fait donc manger, boire, musique, voilà, chanter des chansons assez typiques qui vont parler aussi de la culture, notamment la culture du café qui est très présente à Vieux Habitants.
Oui.
Et en fait, ça va se passer par une petite cérémonie où on va en fait remettre à une jeune fille de la ville une fameuse branche de cerise café, donc c'est la dernière branche entre guillemets de la récolte. Et en fait, ce sera cette jeune fille et ce jeune garçon qui vont donc.
On voit tes yeux scintiller quand t'en parles. T'en parles avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion. Kalina, c'est aussi l'expression d'une forme de nostalgie sur le moment. Tu as écrit un pan de ta vie en Guadeloupe qui te manquait un peu quand même, puisque tu le sortais. À l'époque, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas faire la fête pendant le confinement. C'est peut-être à ce moment-là que tu as essayé de te rapprocher de quelque chose qui te manquait le plus profondément, et ça t'a donné l'idée d'écrire ça.
Oui, c'est ça.
Je suis trop fort. Comment je suis fort? Oh, ouais. Comment je suis fort, les gars.
Mais tout à l'heure, tu disais que justement, c'est une tradition qui est très peu connue, par même les Antillais, parce que c'est fait dans une seule commune, à Vieux Habitants. Mais toi qui vivais à Saint-François, donc à l'opposé, si je ne me trompe pas, à l'opposé de Vieux Habitants, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire à propos du Noël Cacado?
Parce que je me dis que c'est quelque chose qui rassemble déjà. Enfin, tu l'as dit, hein, ça aborde des thèmes tels que la solidarité, les liens intergénérationnels. Je pense que c'est vraiment une fête qui fédère les petits, les grands. Enfin, pour y avoir participé et avoir vu la ferveur autour de ce Noël l'année dernière, enfin, j'étais vraiment épatée. Enfin, c'était magnifique, enfin, de voir tous les gens, petits, grands, qui communiaient en fait. Voilà.
Serane, Duval et Cynthia, ils m'ont volé toutes mes questions. Mais il m'en reste encore quelques-unes. Et là, j'en ai une, c'est: selon toi, quelles sont les particularités ou les défis de l'écriture pour la jeunesse?
Les défis pour... Alors déjà, je pense que c'est d'intéresser les jeunes et les moins jeunes à la lecture, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de moins en moins évident.
Je suis d'accord avec toi pour le coup. Je te rejoins totalement.
N'aie pas peur de le dire. Hein. Assume-le, je suis complètement d'accord, et c'est bien dit.
Voilà. Mais je pense que voilà, c'est la passion de vouloir déjà transmettre des choses. Moi, je pense que la raison pour laquelle j'écris, principalement, c'est vraiment pour transmettre cet amour de mon île aux plus petits. Voilà. Mm-hmm. Et aux plus grands, bien sûr, mais principalement aux plus petits.
Tu as fait une thèse en biotechnologie, si je ne m'abuse.
Oui.
Alors, il me semble, hein, et puis tu es rentré en Guadeloupe. Est-ce que tu es toujours dans la recherche, dans le domaine de la recherche, de la science et tout, ou bien tu décides de consacrer finalement ta vie à l'écriture?
J'avoue qu'en ce moment, je suis dans une phase de questionnement, de reconversion éventuellement. Alors, j'aime la science, c'est vrai. J'aime ce côté recherche, aller fouiller, voilà, faire de la bibliographie. J'adore, pour étayer un peu les idées. Après, est-ce que je vais vraiment rester à 100% dans l'écriture? Si je peux, oui. Mais j'aimerais quand même garder ce lien avec la science.
On a un autre Guadeloupéen sur le plateau, tout c'est Cédric fait. Qui est avec nous. J'ai toujours le sentiment, quand on a une interview avec un artiste ou un homme, une personne en tout cas, qui a un parcours inspirant et qui vient de Guadeloupe, qui a cet amour pour cette île et cette volonté de se rattacher et d'y repartir. Il y a la grosse nostalgie qui est là. Est-ce que c'est pareil pour toi quand tu essaies de t'inspirer pour écrire des textes, des livres?
Oui, tout à fait, parce que ben, du coup, mon île, c'est un endroit, c'est une maison, j'ai envie de dire. C'est ma maison et... on m'a habitué à y aller tous les ans, donc au final j'y trouve une certaine béatitude, en fait,
une sécurité
là-bas.
C'est
oui,
chez
tout
toi
à fait. Donc moi j'adore aller dans mon île. Il y a même un moment où j'ai pris que 2 ans pour y aller et j'étais triste au bout d'un moment.
Il ne dit que 2 ans. Il dit que 2 ans.
Franchement, 2 ans, c'était énorme pour moi. Donc, je suis bien.
Eh bien, moi, je vous invite non loin de la Guadeloupe dans une ode à sa patrie, une chanson d'amour à sa terre natale. L'auteur demande à sa petite île de rester comme elle est. elle, durant son absence, avec ses couleurs, sa joie de vivre, son ambiance naturelle. Rété chantée par la jeune chanteuse haïtienne
guyanaise
Lizzie sur cette émission. À tout de suite.
Je fais escalabatis, je viens respirer. Guyane, mon t'es côté. Madame, mon t'es côté. Cour aider les agistants, se comprends-nous. Entrez, qu'est-ce qu'il courait pour pas moustique, décalez-nous. Guyane, mon t'es côté. Madame, mon t'es côté.
Maintenant, il est temps de le lire, non, de mieux le connaître. J'ai envie de dire, le seul homme parmi nos invités de ce jour, c'est Cynthia qui va se charger de le présenter, s'il te plaît, Cynthia.
Alors, l'invité que je vais vous présenter, c'est un auteur et infirmier originaire de la Guadeloupe également, plus précisément de Sainte-Anne. Il est un des créateurs et animateurs du podcast intitulé La Salle Podcast, dans lequel il commente des séries et films. Dès son plus jeune âge, Cédric se passionne pour le cinéma et il nous le fait bien ressentir dans son livre 4 ans déjà, dans lequel on a l'impression de regarder des épisodes d'une série épicée et rebondissante. Je respire. Il s'inspire des réalités de la vie et de ses expériences en tant qu'infirmier pour aborder des sujets tels que les violences conjugales, la drogue, la place des femmes dans la société actuelle, les relations amoureuses et familiales. Un thriller intrigant qui nous tient en haleine jusqu'au dernier mot. Je sais que Cédric adore qu'on parle de son livre. Et aujourd'hui, on va profiter de sa présence pour en parler et vous faire découvrir ses écrits. Bonsoir Cédric!
Salut, tu vas bien?
Ça va et toi?
Ouais, ça va.
Ça y est, fait comme si on n'était pas là.
Hein.
On n'est pas là, voilà. Vas-y, on se casse.
Ah ouais, la journée, ouais, bof. Il y a eu des problèmes sur la ligne D, là. J'ai
pas. Galère.
J'ai à dire.
Je vous ai dit, eux, ils sont assis tranquilles, ils ont, voilà, ils ont un date ou un rencard quelque part. Nous, on compte pas du tout.
Un petit
on parle du trajet, etc.
Il faut que ça soit détendu.
Ça y est, on l'a piqué.
Alors, c'est dit que j'ai fait qu'un quart de ta présentation. Est-ce que tu peux la compléter, s'il te plaît?
Bah, je trouve que t'as fait même plus de trois quarts de la présentation. Je suis infirmier, podcasteur. Je suis aussi critique film pour un média, Me Too Movie. Je participais aussi avec un groupe de potes. On appelait ça la vraie confrérie où on faisait des événements, des projets autour audiovisuel. Et c'est là-dessus en fait que je me suis lancé pour faire la salle podcast. Et maintenant, je m'attaque aussi à mon livre.
Allez, Tu es. J'ai perdu mes mots.
C'est vrai.
On n'est plus là. On n'est pas là, nous. On n'est pas là.
Ça veut dire qu'en plus, t'as dit 4 ans déjà, mais c'est 4 ans aujourd'hui.
Aujourd'hui. Ben, j'ai pas encore dit déjà. J'ai dit
si,
déjà.
Tu l'avais dit dans la présentation. Oh. Mais je voulais pas te couper.
Alors, Cédric, est-ce qu'on peut dire que l'écriture est une thérapie pour toi?
C'est plutôt un exutoire. Je le vois plus comme un exutoire, au contraire. Mais oui, un petit côté thérapeutique. Mais c'est vraiment plus un exutoire, une passion. C'est le. Moi, quand j'écris, je suis. Par exemple, quand je reviens du travail, moi, je me dis, ah, je suis content, j'ai fini le travail, je vais pouvoir écrire. Donc, ouais, voilà.
Un peu comme Serhan, on peut pas dire que tu étais prédestiné, puisque ton parcours scolaire est complètement à l'opposé.
Alors, j'ai pas envie de dire ça. Disons que j'avais toujours des envies d'imaginer des histoires, d'écrire.
Ah, ça te démangeait.
Exactement.
Ah ouais. Et je connais ce sentiment là, ouais.
Mais en fait, je voyais comment c'était. J'avais déjà la vision de voir comment c'était le monde de l'écriture.
Pause, tu vas continuer. Viens pas me dire dans 2 ans, ça me démangeait de chanter parce que je vois ton style.
Non, calme, je suis pas un chanteur.
Là, bientôt, le mec, il va être joker, il va sortir un titre. Je vais dire, ouais, ça me démangeait de faire aussi du zouk parce que, t'as vu ça dégaine.
Foulard.
Non, je suis pas un chanteur, non, faut pas.
Vas-y, continue.
Non, en gros, que depuis même mes 15 ans, même 10 ans, j'adorais imaginer des histoires. Mais je savais que rentrer dans le monde de l'écriture n'allait pas payer, en tout cas, les factures. Voilà, j'avais compris tout de suite. Donc, en fait, il fallait que je trouve ce qu'on appelle un peu un « securing the back ». Voilà.
Donc,
voilà, il fallait que je trouve quelque chose qui me plaît quand même, un métier qui me plaise.
Tout à fait.
Mais qui me permette au moins de payer les factures, voilà, vivre. Et après, là-dessus, garder quand même l'écriture comme une passion. Et c'est là-dessus qu'en fait, j'ai démarré.
Alors Cédric, justement, ton métier d'infirmier, comment il influence l'écriture de, ton écriture et ta perception des personnages?
Alors, je prends pas tout en tant qu'infirmier parce que j'ai vraiment envie de me détacher de ça. Comme je me détache quand je suis infirmier, je me détache de mon métier d'écrivain. Voilà, je fais vraiment la part des choses. Mais j'avoue que, en fonction des, par exemple, des histoires des patients, des histoires des collègues, des histoires à l'hôpital, je peux m'en inspirer et je peux en trouver une source vraiment. Mais j'essaie quand même de vraiment dissocier les deux et de.
Et rester dans la fiction.
Ouais, voilà, exactement. Parce que sinon, autant faire une autobiographie en fait.
Et tu disais tout à l'heure que tu étais fan de cinéma.
Tout à fait.
N'est-ce pas? Et critique aussi. Hein.
Oui, critique.
Quelles séries et films ont marqué ton parcours d'auteur?
Les films, c'est plutôt, j'avoue, les Marvel. Les Marvel, c'est. Après, ça, c'est parce que j'adorais lire les bandes dessinées Marvel, donc c'est parti à partir de là. Après, il y avait également les séries. Moi, j'adorais les séries comme Fringe, Lost, Person of Interest et même This Is Us. Toutes ces séries-là, en fait, même Murder, où j'arrivais à comprendre la vision du réalisateur et du scénariste. Et c'est ça qui m'a inspiré à faire des histoires, parce que même que ça soit dans le drame, dans l'action ou dans l'intrigue, tu pouvais être surpris et t'étais facilement dedans, en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspiré.
De quoi parle 4 ans aujourd'hui?
Comment cette question brûlée?
Ça se voyait. Alors, 4 ans aujourd'hui, c'est l'histoire d'une mère de famille qui s'appelle Cassandre, qui disparaît et qui réapparaît 4 ans après, dont le titre 4 ans aujourd'hui. Et toute l'histoire, en fait, se base sur deux temporalités. On va faire des allers-retours entre 2019, c'est le moment où elle disparaît, avec vraiment tout le processus, comment et pourquoi. Et 2023, c'est son retour avec vraiment tout l'impact dramatique et familial que ça a, mais également l'enquête policière autour de son affaire. Et l'histoire se passe dans la région parisienne et aussi dans le pays d'Andorre. Et voilà, c'est...
On peut dire que tu chômes pas, hein, t'écris beaucoup, hein, c'est près de 400 pages là.
C'est ça, 496.
Et là, il y a que le livre, mais il me semble que tu as un blog, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement. En fait, 4 ans aujourd'hui, c'est mon premier roman, on va dire, officiel.
Papier.
Voilà, exactement. Mais j'en ai écrit d'autres depuis 2019. En fait, en numérique et sur mon blog pour le coup. Et j'en avais écrit deux. Un roman qui s'appelait Vita et un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Omnirêves.
Ton dernier livre qui s'appelle 4 ans aujourd'hui, n'est-ce pas, explore...
Ça suffit.
Non. Explore le mystère autour de la disparition d'une maman. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de traiter ce thème-là?
Est-ce que c'est personnel?
Non, pas du tout.
Ok.
Alors déjà...
tu dissocies.
Oui, voilà. Oui, j'arrive à dissocier. Mais déjà, l'idée de base, c'était partie d'un rêve où je voyais une femme et un homme se battre. Et en fait, à partir de cette idée-là, j'ai tout imaginé et j'ai créé un avant et un après.
Wow. Non, lui, ouais. Il a une imagination, ça va dans tous les sens. Lui, il ne faut pas lui donner un mot.
Oui, c'est ça, exactement.
Voilà. Tu lui donnes un mot, c'est
même...
parti.
Le rêve en question, il est au milieu de.
C'est
livre.
Ça.
Donc il y a quand même un gros avant et un grand après.
C'est
hein.
Ça.
Ouais, tu lui dis chaussette. Voilà. Vas-y. Il va t'imaginer
après,
des
oui,
choses.
Clairement, et je me suis. Je crois que c'était. J'avais regardé des faits d'actualité. On parlait de la disparition d'une femme. Je ne me souviens plus de son nom, je vous avoue. Mais dès qu'en fait j'ai eu ça, après je l'ai mis dedans.
Ça
et
y est, t'as eu de la matière.
Voilà.
Cette question, elle est pour toi, mais elle est aussi pour Serane. Hein. Est-ce okay. que vous. Vous vous réalisez une fois que l'œuvre elle est sortie. Je commence avec toi d'abord. Est-ce qu'une fois que l'œuvre est sortie, vous vous réalisez?
Ouais.
Mais qu'est-ce que ça te fait de te relire?
Oh, moi, j'aime pas ça. Voilà. Oh, j'aime pas ça. C'est pas dans le sens... en fait, quand moi, je le relis, c'est plus pour le corriger. Donc, c'est plus ça qui... En fait,
t'arrives
moi,
pas à plonger
créer...
dans l'histoire.
Moi, j'aime
t'es plutôt créer... dans le contrôle.
Ouais, c'est ça.
Mais moi... Après, il faut savoir que Cédric connaît le livre pas en cœur.
C'est ça.
Mais littéralement. Et au... Vraiment, il n'a pas besoin de le relire.
Ah, oui.
Tu lui dis, il se passe quoi dans le chapitre?
Il te
trois,
dit ça.
Il te dit ce qui se passe.
Serane, du coup, et toi, tu te relis?
Oui, je me relis. Bon, après, on n'est pas sur 400. Voilà. Après, très, très enrichissant tout de même. Hein. Je vais pas.
Oui, et quand tu, non, et quand oui, tu te relis, ça te fait quoi?
Ben. Alors oui, on repère quelques petites coquilles. On a laissé passer quelques petites erreurs orthographiques. Mais surtout, moi, je trouve ça drôle. Je me dis, waouh,
c'est moi qui ai fait ça. Hein,
Ouais, quand même. Hein. Il y a un truc qui s'est passé à ce moment-là. À quoi je pensais, au fait?
Alors, une question pour vous deux, hein, justement. Combien de temps vous prenez, vous, pour développer dans vos livres, là, l'intrigue et les personnages de votre roman? Combien de temps vous avez pris, à peu près?
Ah, tu sais, nous, on regarde des films. On lit des livres, on te dit que l'auteur, il est à court d'inspiration. Il part s'asseoir sur la montagne, il fait 4 mois, et il revient, mais il n'a toujours pas couché de mots. Donc on veut savoir, vous qui êtes dans le feu de l'action, comment ça se passe dans votre tête?
Tu veux répondre en premier ou pas?
Ok, je pense que ça dépend. Enfin, alors, Kaliné, le secret du nouvel cacado, ça a été assez rapide en vrai.
C'est du vécu un peu.
Oui.
Voilà.
Enfin, plus ou moins, puisque je n'avais jamais fait de nouvel cacado, mais on va dire que c'est parmi recherches... Voilà, que...
Toi, on sait déjà où tu vas passer tes vacances de Noël, on sait ce qui va se passer, voilà, oui, on sait.
Et en fait, voilà, je pense que j'ai mis à peu près 2 mois, bon après c'est vraiment une histoire pour enfants, donc voilà. Mais c'est vrai que le processus de relecture, de est-ce que je dois vraiment envoyer ce livre à la maison d'édition, ça prend un temps fou.
Oui.
Les corrections par, enfin les relectures par des bêta lecteurs aussi, ça prend du temps. Ouais, enfin ça peut être plus ou moins long.
Ok, c'est bon à savoir. Hein.
Ok.
Et toi Cédric alors?
Alors moi j'ai pris pour le coup 1 an pour l'écrire, 1 an et demi exactement. J'avoue que ça, c'est plutôt à cause du travail que j'ai pris beaucoup de temps pour le coup. Mais je trouve que je pouvais l'écrire en 8 mois, même moins.
Oh non, mais Cédric, faut pas le chercher. Il faut pas le chercher, il est chaud.
Une question.
Il est chaud.
Vous travaillez la nuit ou...
Je travaille la journée. Avant, je travaillais de nuit. Mais là, je travaille la journée.
Ah, en termes d'écriture.
Oui, en termes d'écriture.
Pour écrire ou oui. Travaille.
Non, en termes d'écriture.
Ah, moi, c'est la nuit.
La nuit?
Ouais, c'est la nuit.
La nuit aussi ?
Ouais, c'est plutôt la nuit.
Bah, tu vois, je savais qu'ils travaillaient ensemble. Vous l'avez compris.
Non, mais la nuit, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait qu'on est plus inspiré peut-être.
Après, oui, mais en vrai, je peux travailler dans n'importe quelle condition, mais je préfère travailler la nuit, si on me demande de choisir. Mm-hmm. Voilà.
Sérène, moi, j'ai une question pour toi. Je pense que ça va te faire sourire. L'an dernier, tu as été nominée pour le prix Fête Camp de Marie Scondé. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être sélectionnée pour ce prix ?
Alors, je ne m'y attendais pas. C'est vrai que c'est une démarche de la maison d'édition. Donc, j'ai pas précisé, mais je suis éditée par les éditions Negmaron. Donc une maison d'édition guadeloupéenne, mais qui publie également des livres
oui.
des auteurs guadeloupéens, martiniquais et aussi guyanais. Je ne me rappelle plus de la question.
Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce prix ?
D'être sélectionnée.
Ah ouais.
Ben, je me suis dit waouh, et en même temps
c'est quand même Marie Scondé,
ouais,
quoi.
Enfin, et puis en même temps je me suis dit mais peut-être que il y a un peu de syndrome de l'imposteur qui vient un peu. On se dit
est-ce que je mérite,
ouais,
pourquoi
que
c'est
mérite
moi
ça vraiment.
Mais j'ai fait que ce livre quoi.
Oui, en plus. Qui suis-je,
donc
je pense que parfois il faut aussi savoir not humble yourself et se rendre compte que ouais, on en fait quand même des choses bien.
On est nul en anglais, ça veut dire quoi ça?
Pardon,
faut pas se défendre.
C'est comment?
Faut pas se
sous-estimer.
C'est ça.
D'accord.
Faut pas se défendre.
Esther, est-ce que tu lis beaucoup toi?
Alors pas vraiment, faut que je sois honnête.
Une écrivaine qui lit pas. Bon.
Oui, désolée.
Ouais, mais c'est normal. T'écris que dans le domaine qui te concerne, dans l'entrepreneuriat. Donc
pour
en fait,
moment,
c'est plutôt des techniques que tu mets dans ton livre.
C'est
donc ça. C'est pas des fictions que tu fais.
Non.
Voilà, du coup, mais ton livre, tu l'as relu ?
Alors je l'ai relu, mais à moitié. J'ai relu la partie où je parlais un peu de mon parcours. Et après, le reste, vu que c'était très technique, c'était plus pour les corrections.
Ok. L'événement Ludini Gala, il a lieu où ?
Alors, il y a lieu au Salon Hoche le samedi 23 novembre à partir de 19h.
À partir de 19h ?
Oui.
Et comment on fait pour...
pour avoir les billets ?
Oui.
Alors, je vous redonne le numéro ?
Oui.
Voilà, vous envoyez en WhatsApp au numéro. Donc, apprêtez-vous, prenez des notes. 06 65 04 53 91. 06 65 04 53 91.
Et c'est quand l'événement ?
Le samedi 23 novembre au Salon Hoche à Paris.
Parce que crois-moi, je serais parti demain si tu n'en es pas là.
Mais vous êtes tous invités.
Moi, en général, j'aurais débarqué demain.
Vous êtes tous invités, hein. Je vous attends.
Ok, et Duval, les livres, où c'est qu'on peut les acheter là?
Justement, j'allais demander à Cédric, c'est quelle édition toi, Cédric ?
Alors moi, c'est les
Baudelaire.
Éditions Baudelaire, pour
oui.
le coup. C'est une maison d'édition basée à Lyon. Et là où on peut l'avoir, c'est, j'ai envie de dire, partout. La Fnac, Cultura, Amazon, il suffit de taper le nom du roman. Bah,
c'est pas ton premier livre, hein ?
Oui, celui-là en tout cas, ça c'est 4 ans aujourd'hui pour le coup. On peut l'avoir sur la Fnac, Cultura et Amazon, dans n'importe quel libraire. Après, mes autres livres, là du coup c'est sur mon blog qui s'appelle storygenius.unblog.fr ou sur Wattpad en mettant le nom Storygenius.
Va nous la mèche. Est-ce que t'es déjà sur un truc en ce moment là ? Parce que toi, j'ai l'impression que ça bouillonne dans ta tête.
Alors oui, je suis déjà sur par le coup pour la suite. Cette suite. Parce qu'en
parce qu'il y a une suite.
Exactement.
400 pages, il y a une
495,
suite.
495.
Et quand on le termine, on a envie. Hein.
Esther est en dépression.
Parce que pour le coup, en fait, ça va raconter vraiment les 4 ans. Je vais raconter les 4 ans et chaque année, ça sera dans un volume. Là, pour le coup, ça, c'est le premier volume qui raconte la première année. Le deuxième va raconter la deuxième,
il y aura
ainsi de suite. Exactement.
Wow. Okay.
Vu,
non, c'est très bien.
C'est bien joué.
C'est très, très bien.
Concentré.
Voilà, moi, je pense que je vais prendre les volumes, surtout pour ma fille et tout. Je vais lire, mais ma fille, elle aime beaucoup lire, donc on va trouver ça. Alors, Sérane, du coup, c'est les éditions Negmaron.
Oui.
En ce moment, tu as dit que tu étais dans une période de doute. Est-ce que c'est... Comment on appelle le syndrome de l'écrivain? Comment on appelle ça?
Le syndrome de la page blanche.
De la page blanche, est-ce que c'est ça en ce moment?
Au niveau créatif, pas du tout. Ça foisonne un peu trop, d'ailleurs.
Ah ouais, donc là, t'es déjà parti sur un projet, là.
Alors, en ce moment, j'ai fini d'écrire, on va dire, ma deuxième petite histoire pour enfants, pour petits et grands. Et je suis en attente, en fait.
On aura l'exclusivité.
Wow.
Et Sarah, nous sait qu'on peut acheter ton livre, toi.
Alors, on peut l'acheter également. Donc c'est un livre en Guadeloupe, donc une maison d'édition guadeloupéenne, donc on peut le trouver dans toutes les librairies en Guadeloupe.
Oui.
Mais également, si on est donc en Hexagone, on peut donc le trouver sur le site internet de la maison d'édition, donc sur les éditions d'Aigmaron, on peut commander et ça arrive assez rapidement.
Très bien.
Sérène, quand aura lieu ta prochaine dédicace? Je crois que tu as des événements en ce moment.
Oui, oui, oui.
Ça sera quand et où?
Donc, prochaine dédicace au salon du livre
africain.
Jeunesse. Voilà, c'est ça.
Oui.
Qui sera le 30 novembre et le 1er décembre, si je ne dis pas de bêtises.
Bon, c'est déjà dit de toute façon.
Voilà.
On te trouvera là-bas.
On me trouvera là-bas.
Tu pourras faire des dédicaces et tout.
À Clichy.
À Clichy. Allez, ok, je vous remercie tous d'être venus dans cette émission. Mais en tout cas, Cédric, merci beaucoup. Et ton prochain, toi aussi, t'as une dédicace en ce moment?
Oui, là, j'en ai une demain, à Villebon.
À Villebon.
91.
Ok.
Voilà. Et je fais le salon aussi du livre de Villemoisson le dimanche.
Ok.
Et après, je vais à Carré-Sénard la semaine qui vient, d'après, à Cultura.
Ouh. Merci beaucoup.
Il faut aller sur leur réseau, possible.
Voilà. Et le seul événement à garder dans votre agenda, du coup, c'est le dîner gala qui aura lieu
le samedi
prochain.
Le samedi 23 novembre.
Merci beaucoup. Merci Steve. Merci à tous les amis. Merci. Puis, on va se séparer avec cette chanson qu'on n'a pas pu offrir à notre invité de la semaine dernière. Aujourd'hui, elle n'est pas là, elle est à la maison. Il pourra bien l'écouter. La chanson, elle est pour Angéline, du coup. C'est la chanson du Camerounais, l'artiste Camerounais ténor, avec son compatriote Cisco. Allez, salut, à la semaine prochaine.
Dimeligan vous c'est bizarre, ma donne ma beno. Non, moi je refuse ça, puis je refuse ça. Nous on bosse fort pour devenir des boss, c'est ça la base ici. Comme c'est ta base, faire le combo ça, on ne devient pas soucié. La matière est pure pour vendre par le temps, donc on n'est pas crucé.
Salazar est devenu un plus.
Salazar a mignon,
Je voulais partir mon cœur. Y'a que quand tu danses, le balcon se balance. Avec que le couac qui me retient encore.
Ma Yonena, tu es déjà fini. Qui t'a même dit que tu es fini? Est-ce que mon son est déjà passé? Est-ce que les jolies demoiselles ont déjà dansé? Dans mon cœur et dans ma tête, pour serrer de main mes parents m'ont souhaité. Et n'y en a pas au moins, ou à ma toi, Bankanga. Le musicien y a un quoi, Lyon, d'où ben zéro. Mais moi, je ne voulais que chanter.
Mon Paris est fait.